Ce sera vraiment pas très très fameux sur ces régions-là, mais ailleurs non plus. Et en plus, il y aura beaucoup de vent, aussi bien en Midi-Toulousain pour l'OTAN que dans la vallée du Rhône pour le Mistral. 11 degrés à Vannes cet après-midi, au plus chaud de la journée d'ailleurs. 16 à Niort, 17 à Paris et Montpellier, 18 à Gap, à Nîmes, à Toulouse, 20 degrés à Besançon et un très beau 23 degrés à Ajaccio.
Merci Valérie. RTL, nous sommes le samedi 27 avril, il est 9h.
RTL Matin avec Antoine Cavallero.
Et le journal, c'est avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
À la une, la flamme olympique va prendre la mer.
Elle est arrivée dans le port du Pirée à Athènes où elle doit embarquer direction Marseille à bord d'un bateau, pas comme les autres. Un trois-mâts immense, un trois-mâts immense, mythique, avec un équipage remonté à bloc, rencontre dès le début de ce journal. Dans ce journal où nous serons aussi en gare de Strasbourg, la SNCF prévoit des retards jusqu'à la mi-journée sur la ligne vers Paris. Ça tombe mal en plein week-end de vacances scolaires. L'or blanc des fleuristes, on vous parle du muguet. Les professionnels craignent des vols à 4 jours du 1er mai. Fin du blocus à Sciences Po Paris, la droite dénonce une gestion hasardeuse de l'école. Gabriel Attal qui fait un pas de plus vers les agriculteurs, une nouvelle série d'annonces ce matin. Et puis le gouvernement soulagé, Moody's et Finch n'ont pas dégradé les notes de la France.
C'est l'image de la matinée, Rachel. Ça y est, la flamme olympique embarque direction Marseille.
À bord du Belém, impressionnant trois mâts qui partira dans moins d'une heure d'Athènes. L'équipage est fin prêt à accueillir la prestigieuse passagère, Aymeric Gibert, le capitaine.
Beaucoup d'excitation là, il n'y a que du bonheur, que de l'envie d'y aller. Le passage de Corinthe qui ouvre que pour nous, donc moi j'ai jamais passé. Savoir qu'un jour le canal de Corinthe ouvrirait que pour un navire, le mien, le Belém, avec la flamme olympique. Et puis après, la navigation qui va continuer, cette belle mer Méditerranée qu'on va croiser, la mer Ionienne, arriver dans le détroit de Messine, ressortir les bouches de Bonifacio, Cap au Nord dans le golfe du Lion pour rejoindre Marseille. Donc ouais, le parcours est extraordinaire, l'équipage a l'air vraiment ultra motivé, les jeunes, je crois en eux, j'ai toute ma confiance, vraiment tout est bon.
Aymeric Gibert, le capitaine du Belém, ce voilier historique à bord duquel vous avez pu monter, Hugo Hamelin, à la rencontre d'un équipage en partie composé de jeunes triés sur le volet.
Oui, sélectionnés pour leur motivation, leur esprit d'équipe après des parcours de vie souvent cabossés. Thomas, 18 ans, est originaire de l'Ain.
Je suis fier de représenter mon pays, fier pour la flamme olympique, représenter plusieurs pays, les valeurs, le respect. J'ai connu des difficultés parce que je suis dyslexique, dysorthographie. Moi, on m'a beaucoup abaissé, j'étais un peu frappé quand j'étais à l'école. Au sein des pompiers, j'ai trouvé une deuxième famille. Là, j'ai pris la revanche, là, je vais dans le droit chemin. Je vous ramène la femme à Marseille, c'est ça.
Vous êtes parés ?
Parés !
Pour lui qui a appris à naviguer sur un étang, ce périple entre Athènes et Marseille est déjà mythique.
Ah, c'est le grand large, là, on est sur la mer. Il n'y a rien autour, la ville commence à s'éloigner très très vite. Là demain je vais manœuvrer, donc ça va être pas mal. Pour moi les Jeux Olympiques c'est une cohésion, un esprit d'équipe, c'est l'entraide, c'est une fierté. Parce qu'on va porter la flamme, on va présenter la France. Donc là il faut profiter du moment autant qu'on peut. Donc voilà.
Thomas qui comme 59 autres jeunes pourra glisser un original gardien de la flamme olympique sur son futur CV.
Le reportage d'Hugo Hamelin pour RTL. La flamme est attendue le 8 mai à Marseille, où son premier porteur sur le sol français sera le nageur Florent Manaudou.
RTL, il est 9h03, la SNCF prévoit des perturbations sur les trains entre Paris et l'Est de la France, ça pour tout le week-end.
La faute à une rupture de caténaire qui a engendré jusqu'à 6 heures de retard sur certains trains hier. Bonjour Yannick Holland.
Bonjour.
On vous retrouve en direct de la gare de Strasbourg pour RTL. Yannick, la SNCF annonce donc des travaux tout le week-end et des retards encore possibles jusqu'à la mi-journée à Strasbourg.
Et oui, les premiers retards sont en train d'apparaître. Là, sur les écrans de contrôle, 45 minutes pour le TGV de 8h25 à destination de Paris. Il n'est tout simplement pas encore parti. Olivier est à bord de ce train qui devait normalement être un Stuttgart-Paris, mais les TGV avaient tellement de retard hier soir qu'il n'est jamais arrivé jusqu'en Allemagne. Olivier a donc dû prendre sa voiture ce matin entre Stuttgart et Strasbourg pour prendre ce train.
L'inquiétude était grande puisqu'on avait prévu de partir depuis Stuttgart. Donc cette nuit, différents programmes, soit annulation complète, soit venir en voiture ici. Donc c'était l'alternative, il ne faut pas annuler entièrement.
Vous avez décidé ça à quelle heure alors? À minuit?
4h30 ce matin. C'est là où j'ai vu qu'effectivement qu'il roulait depuis Strasbourg. Parce que dans l'application allemande, il était indiqué que le train ne roulait pas du tout. On était à deux doigts d'annuler et puis finalement j'ai vu qu'il roulait depuis Strasbourg. Et donc j'espère qu'il sera à l'heure à Paris et qu'il va pas nous détruire le week-end quoi.
Alors c'est mal parti avec ces 45 minutes de retard. Hier, le record, vous l'avez dit, était de 6 heures. 300 personnes qui ont loupé leur correspondance à Paris ont été hébergées dans des hôtels Gare de l'Est. Et les perturbations sont annoncées ici jusqu'à 13 heures ce samedi. Mais la SNCF doit encore faire des travaux tout le week-end, donc ce qui pourrait engendrer de nouveaux retards sur la ligne TGV Est.
Merci Yannick. Yannick Holland, correspondant de RTL à Strasbourg. Une nouvelle série de mesures complémentaires à destination des agriculteurs dévoilée ce matin. Le gouvernement espère ainsi apaiser définitivement la colère qui s'était exprimée en début d'année. Accélération des projets de stockage d'eau et d'irrigation, nouvelles aides à la trésorerie, présentation d'une nouvelle version du plan Ecophyto sur la réduction des pesticides. Autant de mesures dont vous avez le détail sur RTL.fr et l'application RTL.
Ils occupaient Sciences Po Paris depuis jeudi. Les quelques centaines d'étudiants pro-palestiniens ont levé le camp hier soir.
Oui, blocus levé grâce à ces deux annonces de la direction. Un débat interne aura lieu la semaine prochaine et les procédures disciplinaires lancées contre certains manifestants sont suspendues. Des concessions saluées par les étudiants pro-palestiniens, même si leurs revendications vont plus loin, comme l'explique Sarah. Elle a participé au blocus de Sciences Po.
Bien évidemment, on est d'accord qu'il faut libérer les otages. Manifester pour la Palestine ne veut pas dire qu'on oublie aussi les crimes qui ont été commis en Israël, ne veut pas dire que l'on ne condamne pas le Hamas, bien évidemment. Il y a des crimes qui ont été commis aussi, notamment lors des attaques du 7 octobre, qu'il faut condamner. Et bien sûr, la protection des civils, qu'ils soient israéliens ou qu'ils soient palestiniens, c'est la cause première.
Ces manifestants, ils étaient, je le rappelle, quelques centaines, loin donc de faire l'unanimité dans les rangs de Sciences Po, comme l'explique Terence Blanc, président de l'antenne du parti Les Républicains au sein de l'école.
Ça fait 2 ans que Sciences Po est soumise à tous les caprices de l'extrême gauche. L'administration a la possibilité de reprendre en main l'établissement, mais si elle ne le fait pas, il faut, je pense, une mise sous tutelle de la part de la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, qui reprenne la main sur l'établissement, soit en nommant un autre administrateur provisoire, soit en s'en occupant elle-même.
Des propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL.
Allez, une pause et ce sera mercredi, le 1er mai. Les professionnels craignent des vols de muguet. Reportage dans l'Oise, c'est dans quelques instants sur RTL.
RTL Matin avec Antoine Cavallero.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, à ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marais traditionnel sur Auchan.fr.
RTL Matin avec Antoine Cavallero.
Et le journal La Suite avec Rachel Sadodine à quelques jours du 1er mai. Un petit brin prend une valeur considérable.
Et c'est le muguet traditionnellement offert pour la fête du travail. C'est ce mercredi. Eh bien, la délicate petite fleur a été renommée l'or blanc par les fleuristes parce que face à la menace des vols, ils redoublent de vigilance. Ils sont obligés de s'équiper comme ce professionnel que vous avez rencontré dans l'Oise pour RTL, Margot Le Fur.
Un bouton sous la caisse en cas d'intrusion, des alarmes, des caméras de surveillance. Il y a 2 ans, Alexandre Trocmez, fleuriste, a installé des dizaines d'équipements dans sa boutique pour éviter les vols.
Il faut être honnête, c'est un peu Brick Brother. À chaque angle de mur, et on a ce qu'il faut. Des caméras qui sont là, et on en a d'autres un peu plus loin aussi. Également sur les portes, que ce soit sur le parking, enfin il y en a partout. L'objectif c'est quand même se prémunir des dangers. J'ai essayé de mettre le maximum d'éléments pour justement éviter le chaos.
Tout est connecté en temps réel sur son téléphone et pour plus de sécurité, Alexandre vit au-dessus du magasin.
En étant là, on dissuade quand même.
À l'approche du 1er mai, il est encore plus vigilant.
Le muguet, c'est la période critique. On ne s'aventure pas à partir en vacances. Hein. Le moindre bruit, je suis un peu plus aux aguets. On protège nos entrées, nos sorties. Hein. Il y a des véhicules déjà mis en place pour justement éviter les voitures béliers. On ne communique pas la date du jour de livraison du muguet. On montre montre pas les quantités non plus. Ça, c'est sûr, je vais pas montrer avec en faisant une vidéo, vous voyez, tout le muguet qu'on a. Ça, non.
Au total, Alexandre a investi plusieurs milliers d'euros pour sécuriser sa boutique.
Le reportage de Margot Le Fur dans l'Oise pour RTL.
Rachel, le ministre de l'économie, est passablement soulagé ce matin. Fitch et Moody's ont épargné la France.
Oui, leurs notes restent inchangées après les avoir dégradées, hein, ces notes l'an dernier. Et bien, cette fois-ci, les agences de notations américaines ont décidé d'être plus indulgentes, et ça malgré le lourd dérapage du déficit public de la France l'an dernier. William Galibert, le gouvernement pousse donc un ouf de soulagement ce matin.
Oui, mais alors on ne joue vraiment pas les crâneurs. Au contraire, Paris montre patte blanche. Dans la seconde où on a connu ces notes maintenues, Bruno Le Maire a fait savoir par communiqué qu'il voulait redoubler d'efforts pour rétablir les finances publiques. Mais la situation reste chaotique. Les déficits se creusent, les recettes et la croissance en berne, le chômage en hausse. La nouvelle réforme de l'assurance chômage va arriver d'ici l'été. Un tour de vis comme un signal pour les marchés financiers. Mais politiquement, les dégâts sont déjà là pour Emmanuel Macron. Et cette dégradation des finances publiques, c'est du carburant pour les oppositions avant les européennes. De ce point de vue-là, note ou pas note, rien n'a changé depuis hier soir.
Les précisions de William Galibert du service politique de RTL. L'actualité à l'étranger, eh bien, avec ce matin le Hamas qui dit étudier une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve, des combats à Gaza et de la libération d'otages. La bande de Gaza où près de 2 millions de civils sont réfugiés dans la ville de Rafah au sud. L'Union européenne a annoncé hier une nouvelle aide humanitaire de 68 millions d'euros.
Les sports, Rachel, avec le foot, la suite de la 31e journée de Ligue 1. Et c'est peut-être aujourd'hui que le Paris Saint-Germain sera sacré champion pour la 12e fois.
Oui, pour ça, les Parisiens doivent battre le Havre. Le coup d'envoi, c'est à 21h au Parc des Princes. Vous suivez bien sûr la rencontre dès 20h30 dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Hier, Montpellier et Nantes se sont neutralisés. Un partout. Et puis Antoine, le rugby, aujourd'hui, c'est crunch. Dernier match du tournoi des 6 nations féminins. France-Angleterre, ça se passe à Bordeaux. Les Bleus sont à un petit point seulement des Red Roses. Et avec plus de 27 000 tickets vendu, une affluence record attendue. On espère bien que le public enflammé emmènera les Françaises tout droit vers le Grand Chelem. Le coup d'envoi, c'est à 17h45.
Allez les Bleus, merci beaucoup Rachel Sadodine. Retour de l'information sur RTL, c'est à 10h. En attendant, vous avez tout sur rtl.fr. Les courses, je vous rappelle les pronostics de Dominique Cordier. Le quintet à Auteuil, départ 15h15. Dominique vous conseille de jouer le 18, le 4, le 3, le 8, le 16, l'As, le 6, l'outsider de RTL, c'est le numéro 3, la Manigance. Tiens, Jean-Sébastien Petit-Demange, oui. Puisque vous êtes là, une petite anecdote quand même sur cette flamme olympique là qui va partir dans quelques instants, dans quelques minutes.
Absolument,
d'Athènes vers Marseille.
C'était la question du jeu.
Vous nous dites que c'est pas vraiment un symbole olympique qui nous vient du fond des âges.
Non, c'est, il n'y a jamais eu de flamme olympique aux Jeux antiques. La flamme était dans tous les temples. Et comme Pierre de Coubertin, quand il relance les Jeux de l'ère moderne, a voulu des Jeux laïques, il n'y avait pas du tout de flamme olympique en 1896 à Athènes. Il n'y en a pas eu non plus en 1900 à Paris. La flamme olympique est apparue en 1928 à Amsterdam. Et le parcours de la flamme olympique a commencé, lui, en 1936 aux Jeux de Berlin en Allemagne. Amsterdam, c'était donc la bonne réponse, puisque... non, pardon, c'était pas du tout ça, c'était les derniers Jeux d'Athènes, ma question, en fait.
C'était la flamme.
Je ne sais plus, vous m'embrouillez. Bon, tout le monde a gagné.
Toujours est-il qu'il y a trois gagnants.
Voilà, c'est ça
le plus important.
De Saint-Hilaire, ça m'émeint. Josette Ekernat de Croix dans le Nord et Chantal Laurencin de Rognac dans les Bouches-du-Rhône. Et c'était effectivement 1928, la réponse.
Amsterdam. La question.
Et la question, c'était en quelle année la flamme olympique est apparue aux Jeux.
Voilà.
Et voilà, bravo à toi.
Je me suis retenu longtemps pour ne pas vous vanner là sur ce coup-là.
Je le mérite aujourd'hui. Hein. On parlait évidemment de cette flamme olympique puisque c'était l'actualité et c'était la balade de Jean-Seb en Grèce tout à l'heure à 8h20. C'est à réécouter sur RTL.fr. Dans un instant, c'est votre émission Santé sur RTL. Ça va beaucoup mieux, Flavie Flamand, Jimmy Mohamed. Salut Flavie, le programme ?
Salut Antoine, ce matin au programme de Ça va beaucoup mieux, on va s'intéresser au cannabis et à ses effets sur la santé.
Et puis on va prendre une petite tasse de thé matcha qui est très bonne pour la santé.
On va trinquer au thé matcha quoi.
Complètement.
Tiens, on va parler d'une tendance aussi qui cartonne aux États-Unis, l'hydrothérapie du côlon. En fait, c'est un gel
un grand lavement.
Voilà, un grand lavement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est dangereux justement? On vous raconte tout ça. À tout de suite.
Mais merci Flavie. Et on vous retrouve dans quelques secondes. RTL Matin Weekend, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Demain c'est tout pareil, mais en mieux, car demain c'est dimanche et le dimanche c'est le jeu du Kiki. On va vous faire gagner une semaine dans un club Bellambra, une semaine pour 4 personnes. La destination, ça sera à votre guise, ce sera votre choix. Ce matin on vous a informé donc, mais on a également écouté de la très bonne musique. Valérie, ça vous a fait bouger ce matin, ça.
Mais c'est bien ça,
ça réveille. Ça.
Ouais, c'est Lizzo, c'est son anniversaire, on adore. Allez, on fait de la place à Flavie et Jimmy, c'est dans un tout petit instant, c'est sur RTL.
RTL Matin, week-end.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent, et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers, mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL.
Il était une fois un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job, comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Pourquoi se dépêcher d'aller fêter les 55 ans de Castorama ? Parce que quand on a l'esprit Castor, on veut saisir toutes les bonnes occasions et tous les petits prix. Mais surtout parce que l'anniversaire Castorama se termine bientôt, avec des offres jamais vues. Et grâce à votre carte de fidélité, vous pouvez encore participer à notre grand jeu anniversaire. Il y a 100 000 euros de cartes cadeaux et un voyage de 3 000 euros à gagner. Mais vite, l'anniversaire Castorama, c'est seulement jusqu'au 6 mai.
Castorama, changer nous fait avancer. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RTL Confidentiel
avec Ophélie Meunier.
Cette semaine dans Confidentiel, une star planétaire dont l'influence ne cesse de grandir, la chanteuse américaine Taylor Swift. À quelques jours de son arrivée en France pour une série de concerts, c'est l'occasion de comprendre le phénomène Swift. Un parcours exemplaire, mais aussi semé d'embûches. Aujourd'hui, sa voix peut même faire basculer le résultat de la prochaine élection présidentielle américaine.
Confidentiel.
Ne manquez pas Confidentiel Taylor Swift tout à l'heure. On se retrouve à 14h30 sur RTL.
Shake, shake, shake.
9h15, 10h.
Ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed.
Eh bien, le bonjour à toutes et à tous. C'est le week-end, on est samedi. Et le samedi, c'est Jimmy. Flavie.
Salut Flavie.
Ouais, comment ça va, Jimmy?
Ça va et vous?
Bah, ça va, je suis ravie toujours de vous retrouver. On est aux commandes de ce rendez-vous santé, mieux vivre sur RTL. Et on est ensemble, évidemment, jusqu'à 10h. Merci à vous tous pour votre fidélité et les messages que vous nous laissez. Alors, vous le savez, vous appelez le 3210 ou vous envoyez toutes vos questions par email à santé@rtl.fr. D'ailleurs, vous venez de me dire effectivement que la routine de la semaine dont vous allez nous parler après, c'est une question d'auditeur.
Complètement. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on en ferait une routine ou une non-routine?
Eh bien voilà, c'est parti pour les premières consultations. Le programme de ce matin. Alors, on va commencer fort. Légalisé en Allemagne, le débat sur la légalisation donc du cannabis est fréquemment relancé en France, l'un des pays d'Europe où l'on en consomme le plus. C'est même le pays d'Europe où l'on en consomme le plus. Quels sont les effets secondaires de cette drogue sur le cerveau et les neurones? Les conséquences de sa consommation régulière sur la santé? Que pensez également du CBD? Vous savez, c'est cette huile que l'on retrouve partout issue du cannabis qui s'est démocratisée ces dernières années. C'est notre dossier de la semaine.
Le thé matcha, en fait, c'est un thé moulu qu'on utilise.
Ça se fume pas.
Et non, ça se fume pas le thé matcha, ça se boit, mais c'est hyper branché. Mais au-delà de ça, en fait, ce serait une super boisson riche en antioxydants. Et comment est-ce qu'on fait du thé matcha? Est-ce qu'on peut en prendre tous les jours? Eh bien, vous allez voir que c'est l'aliment de la semaine.
Nous voici donc à la routine. Une question que vous nous avez posée, c'est une tendance qui fait fureur aux États-Unis et certaines stars ne jurent que par elle. Alors, est-ce qu'il faut écouter les stars? Tiens, la routine de la semaine dernière.
La vaseline, vous en avez mis
de Jennifer Aniston.
Vous avez mis de la vaseline
Non, j'avoue que j'ai pas essayé. Je suis très bien avec mes petits produits bio.
Vous avez pas besoin.
Et puis j'ai pas besoin. Vous êtes trop gentil. Bref, est-ce qu'on doit suivre les stars? On ne sait pas. En tout cas, certaines se lâchent et donc prônent l'hydrothérapie du côlon. Le principe, il est simple, c'est de vous faire un grand lavement du côlon, dites donc. Alors, pour vous détoxifier, vous allez nous... C'est un jet et tout
Ah bah faut y aller, oui, il faut bien la rincer le colon. Le colon, voilà. c'est grand.
Mais il paraît que c'est un coup de gueule, donc
oui,
à mon avis...
Ouais. À ne surtout pas faire.
Bon, enfin, vous allez nous raconter tout ça, quand c'est même. Parti.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Eh bien justement, santé@rtl.fr, vous avez reçu un mail de Jérôme. Ma fille de 6 ans est malade en voiture. Quel conseil et quel médicament lui donner pour éviter qu'elle ne vomisse? Est-ce que le mal des transports des enfants s'atténue en grandissant? Et si oui, quand? C'est vrai que c'est un truc d'enfant, ça.
Oui, alors le mal des transports, il arrive souvent entre 3 et 12 ans et ça s'améliore ensuite. Et puis après, c'est plutôt les femmes qui vont plus subir le mal des transports que les hommes, notamment à cause des hormones.
Ah bon?
Les hormones rendent les femmes plus sensibles au mal des transports. Elles s'en plaignent beaucoup plus.
D'accord.
Pourquoi est-ce qu'on a mal les transports? Alors, quand on est dans une voiture, il faut bien comprendre que le système d'équilibre, c'est nos oreilles. Nos oreilles, quand on est en voiture, elles perçoivent qu'il y a des petits mouvements, parce que la voiture, elle bouge quand même, vous prenez des virages. Le problème, c'est que notre cerveau, il pense qu'on est immobile, vu qu'on est assis, on ne bouge pas. Et nos yeux, la plupart du temps, ils sont fixés sur un téléphone, un livre ou quelque chose, donc le cerveau, il se dit, mais vous ne bougez pas. Mais votre oreille interne, elle sent qu'il y a des secousses, puisqu'il y a des petits cristaux qui bougent en fonction des mouvements de la tête. Du coup, il y a deux messages qui sont totalement opposés. L'oreille qui pense que vous bougez et le cerveau qui pense que vous êtes immobile. Et c'est pour ça qu'on a le mal des transports, qu'on a des nausées, des vomissements et que ce sont vraiment au fond du trou.
Est-ce qu'on a des conseils à donner justement à Jérôme pour sa petite fille de 6 ans?
Oui, alors l'idéal...
La patience déjà.
Ouais, un bon sac à vomi, c'est bon, mais des conseils, c'est franchement... Alors déjà, il faut bannir les écrans, il faut bannir les livres, la lecture, parce qu'il faut regarder au loin. Si vous regardez votre téléphone, votre œil renforce l'image que vous êtes immobile pour votre cerveau. Donc il faut être au milieu si possible, regarder à l'horizon, ou regarder ce qui se passe pour dire à votre cerveau « Non, je suis en train de bouger ».
Comme ça, tu gères directement devant en plus.
Exactement, sur le papa et pas sur la banquette, parce que la banquette, c'est une galère à nettoyer ensuite. Ne jamais partir l'estomac vide, ni l'estomac trop plein. Si vous mangez beaucoup, vous allez vomir très rapidement. Et puis on peut s'aider aussi de la phytothérapie. On sait que par exemple que le gingembre peut être efficace contre les nausées et les vomissements, et c'est l'OMS qui le valide, à la fois quand on est enceinte, mais aussi contre le mal des transports. Gingembre qu'on peut donner chez l'enfant à partir de 6 ans. Même chose pour la menthe poivrée, sous forme d'huile essentielle. Ça peut aider, mais elle est contre-indiquée avant l'âge de 8 ans. Et puis, il existe dans le commerce des bracelets d'acupression. C'est un petit bracelet qui consiste à appuyer sur certaines zones, comme de l'acupuncture. Alors, c'est pas vraiment validé, mais chez certaines personnes, ça peut aider. Donc, moi, je dis pourquoi pas.
Donc ça, ça vaut pour les enfants et pour les adultes?
Alors, il existe des antihistaminiques, des anti-allergiques, qui vont un peu shooter, mais qui aident à lutter contre le mal des transports. Et il existe aussi des patchs qu'on peut mettre derrière l'oreille. On appelle ça des patchs de scopolamine. C'est sur prescription médicale, qui permettent là encore de lutter contre le mal des transports lorsque celui-ci est trop intense, car malheureusement, à l'âge adulte, je vous ai dit que les femmes en étaient plus victimes.
D'accord.
Mais on peut rassurer Jérôme, sa fille, normalement à partir de 12 ans, devrait commencer à avoir un peu moins de symptômes.
Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit femme.
Et que rebolote, ça recommence malheureusement.
Les pauvres. Juste un truc, vous avez parlé d'antihistaminique, je peux citer une marque de médicaments, enfin je veux dire, c'est comme le Zyrtec et tout ça.
Alors c'est une autre famille d'antihistaminiques. D'accord. Parce que c'est vrai que dans les antihistaminiques, on a le Zyrtec, l'ARU, voilà, Cetirizine, tout le tralala. Là, c'est des antihistaminiques de première génération qu'on n'utilise plus dans l'allergie, mais qu'on peut donner dans le mal des transports.
Et ça, on le demande à son pharmacien.
Et c'est sur prescription médicale.
Très bien. Merci, docteur.
Ben, je sais.
Posez vos questions par mail à Flavie Flamand et au docteur Jimmy Mohamed
à l'adresse santé@rtl.fr.
Ah bah tiens, justement, Véronique qui a une question à vous poser que j'aurais voulu vous poser depuis longtemps.
Ah.
Donc c'est super. Est-ce qu'on peut prendre de l'aspirine en prévention pour fluidifier son sang afin de protéger son cœur et ses artères? À quelle dose l'utiliser? Y a-t-il des effets secondaires? C'est quelque chose, moi, un jour, qu'on m'a, une sorte de petite publication qu'on m'a envoyée en me disant, regarde, en prenant un tout petit peu d'aspirine tous les jours, en fait, je peux fluidifier mon sang.
Alors, on va rappeler que l'aspirine, c'est un médicament, donc il a des effets secondaires, donc soyez vigilants. Alors, c'est un anti-inflammatoire qui va avoir à toute petite dose un effet anti-coagulant. anticoagulant, fluidifiant pour le sang.
Mais c'est bien ça alors ?
Quand vous avez fait un infarctus, un accident vasculaire cérébral, on sait que l'aspirine, à petite dose, on dit l'aspirine nourrisson, va fluidifier le sang pour éviter les récidives.
Ça, ça veut dire quand tu as fait un infarctus et qu'après, on reprend une vie normale.
Exactement.
Et voilà.
Pour éviter que ça recommence. Okay. En revanche, ce qu'on appelle en prévention primaire, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait d'infarctus, vous n'avez jamais fait d'accident vasculaire cérébral, eh bien là, il n'y a pas d'intérêt de prendre de l'aspirine au long cours en préventif.
Okay.
Et les publications dont vous parlez, c'est qu'on a quand même observé que l'aspirine, à petite dose, eh bien ça pouvait être un traitement intéressant en prévention dans certains cancers, notamment pour lutter contre la récidive et lutter contre les métastases ou les complications de certains cancers. Et on sait que c'est un vieux médicament, depuis très longtemps, on parle des effets positifs de l'aspirine dans certains cancers. Alors il faut être extrêmement vigilant, si aujourd'hui vous avez un cancer, ne prenez pas de l'aspirine en automédication, puisqu'il y a quand même des risques d'interaction médicamenteuse avec d'autres traitements. Il y a un risque de saignement, notamment au niveau de l'estomac. Mais malgré tout, vous pouvez en parler à votre oncologue. Tiens, aspirine et cancer, est-ce que ça peut aider ? Mais moi, j'inciterai jamais personne à prendre de l'aspirine en automédication pour prévenir certaines maladies.
D'accord, j'ai même entendu que lorsqu'on avait un accident cardiaque, enfin, si on est accompagné et tout, les gens doivent tout de suite nous donner de l'aspirine pour fluidifier le sang.
Alors, il faut qu'on ait le diagnostic. Par exemple, dans un accident vasculaire cérébral, vous avez soit une artère qui saigne, soit une artère qui est bouchée. Si vous avez une artère qui saigne, faut pas qu'on vous donne de l'aspirine.
Okay.
Donc, sans avis médical, on ne donne pas d'aspirine. Et effectivement, à la phase aiguë d'un infarctus, on va donner des fluidifiants, donc on va donner de l'aspirine ou d'autres traitements.
Okay.
Mais ne donnez rien de vous-même, parce que si vous donnez un traitement et que le médecin il est coincé parce que vous avez déjà donné de l'aspirine, vous allez vous en mordre les doigts.
Okay.
On appelle le 15,
exactement,
si on a un doute, et puis l'affaire est résolue.
Il y a des effets secondaires à l'aspirine ou pas ?
Alors, le risque principal, c'est le risque de saignement. Si jamais vous avez un ulcère au niveau de l'estomac et que vous prenez de l'aspirine, eh bien, vous risquez de le faire saigner. Donc, on évite l'automédication. On peut prendre un peu d'aspirine si jamais vous avez la migraine, vous avez un petit rhume, un ou deux jours, vous demandez conseil au pharmacien, mais pas en automédication et encore moins sur le long cours sans avis médical.
On se retrouve dans un instant, on va accueillir dans un instant le professeur Nicolas Autier, on va parler avec lui du cannabis, voilà. Les effets du cannabis sur la santé, on parle de plus en plus de cette possibilité de légaliser le cannabis en France, et bien ce sera notre dossier de la semaine. Et puis après, de quoi on va parler ? Eh ben du côlon.
On va se faire un bon lavement du côlon, ou pas ?
Allez. A tout de suite.
Jimmy Mohamed,
Flavie Flamand,
ça va beaucoup mieux sur RTL.
Mais U, peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine ?
Ici, dans les magasins U, il y a plein de fraises à prix coûtant. Et à seulement 2,69€ la barquette. Ah, j'ai couru pour pas rater ça.
Ouh. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 25 au 27 avril dans vos magasins U, les fraises rondes à prix coûtant sont à seulement 2,69€ la barquette de 500 grammes, soit 5,38€ le kilo. U, commerçant autrement.
Catégorie 1, origine France par modalité et magasin participant sur magasin-u.com.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Chez Ixina, à partir de 2990€, vous avez une cuisine sur mesure et électro inclus. Et en plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet. Ah oui, en plus, elle est garantie 10 ans. En fait, le prix Ixina, c'est vraiment bien plus qu'un prix. Ixina, oui à vos rêves. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur ixina.fr.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat, pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, à la base c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé. On voulait juste être sympa. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, des 15€ et jusqu'à 25€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
On refait la télé, présenté par Jade et Éric Dussard sur RTL.
Avec nous, un humoriste révélé par la télé dont on ne demande qu'à en rire. On va refaire la télé d'Artus.
Et vous raconter son incroyable histoire, celle d'un cuisinier devenu l'un des humoristes et comédiens préférés des Français.
Et vu que son film s'appelle Un petit truc en plus, il aura droit en plus à quelques trucs qui devraient le ravir ou pas. On a retrouvé tous ces passages télé.
On refait la télé d'Artus, c'est tout à l'heure à 11h30.
Flavie Flamand, Jimmy Mohamed.
Ça va beaucoup mieux.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Votre santé nous est chère, elle nous est importante et on essaye tous les samedis matins de vous livrer des conseils pratiques pour améliorer votre mieux vivre, votre bien-être. On en parle avec notre Jimmy Mohamed national. Non, c'est vrai, je me réjouis en fait à chaque fois quand, vous voyez, quand on explique cette histoire d'aspirine en cas d'infarctus, quand on explique le mal des transports. En fait, voilà, c'est plein de petits trucs qui permettent de se sentir mieux dans sa vie.
Eh bien, exactement. C'est l'objectif de Ça va beaucoup mieux.
On est ensemble jusqu'à 10h. Et on va parler du cannabis.
Oui, avec le professeur Nicolas Autier, médecin psychiatre, pharmacologue à la faculté de médecine de Clermont et auteur de ce super livre que je vous recommande vraiment, Le cannabis pour les nuls. On comprend tout et on apprend plein de choses.
À apprendre, hein.
Franchement, il y a plein de petits chapitres et même moi j'ai appris plein de choses. Professeur, c'est un vrai régal ce livre.
Merci.
Bienvenue sur RTL, professeur Autier. Quand on parle de cannabis à usage récréatif, en fait, on parle de quoi ? On parle du, pardon de le dire comme ça, mais du pétard que vont se faire. D'ailleurs, il paraît qu'on dit plus pétard. Hein, on m'a dit que c'était ringard. Non, non. Enfin, en tout cas, on parle de cette utilisation du cannabis lorsque l'on fait la fête.
Entre autres, disons que c'est, on aimerait un peu, je pense, c'est un raccourci en fait.
Oui.
Parce qu'il y a effectivement cet usage festif qui existe avec le cannabis, avec l'alcool, avec d'autres drogues, qui n'est pas toujours problématique, mais qui est interdite parce que la drogue est interdite. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont rangés dans la catégorie du cannabis récréatif et qui en réalité ne cherchent pas du tout à faire la fête avec. Ils cherchent à dormir pour certains, ils cherchent à être moins stressés, ils cherchent à se sociabiliser pour les plus jeunes. Et puis certains cherchent vraiment à apaiser des souffrances.
À tel point que la France est un pays où on consomme beaucoup, beaucoup de cannabis.
Oui, bah on alterne entre la première et la deuxième place régulièrement en Europe.
Non, c'est vrai, c'est fou.
En Europe, il y a environ 22 millions de consommateurs de cannabis, 22 millions en Europe, dont 5 millions en France.
Oh, c'est énorme.
Consommateurs dans l'année, hein, c'est pas régulier, mais donc c'est quasiment un quart de la consommation de cannabis qui se passe en France.
L'Allemagne a passé un cap ces dernières semaines en légalisant donc le cannabis. Il est possible de le posséder, de le cultiver, de le consommer donc dans ce pays. Cette loi allemande, elle autorise aussi les personnes de plus de 18 ans à détenir jusqu'à 25 grammes de cannabis. L'Allemagne suit un mouvement que l'on peut voir dans pas mal de pays européens. La France, c'est marrant parce que c'est à la fois le plus gros consommateur, mais c'est aussi celui qui n'a pas encore franchi ce cap.
La France fait des choix différents actuellement, des choix politique différente, parce que ça passe forcément par des choix politiques, et elle fait un choix plutôt autour de l'interdiction, de la répression, etc. Quand d'autres pays, qui ont eux aussi essayé la répression, et qui se sont rendus compte que ça ne permettait pas de tarir le marché noir, eh bien se sont dit, on va quand même essayer autre chose, on va continuer de lutter contre le trafic, parce que l'Allemagne va continuer de lutter contre le trafic, et c'est normal, mais à côté de ça, elle va faire de la santé publique. C'est-à-dire, je ne vais pas stigmatiser, sanctionner les utilisateurs, les usagers, je vais essayer d'encadrer les usages et de réduire les risques liés à ces usages et les dommages liés à ces usages.
Parce que justement, on va revenir sur les risques. Est-ce qu'il y a un risque de dépendance avec le cannabis ? Est-ce qu'on peut être addict au cannabis comme on serait addict à la cigarette, par exemple, ou à d'autres drogues ?
Oui, bien sûr, on peut devenir addict au cannabis. De toute façon, le cannabis, on le consomme avec du tabac. Donc, généralement, on a déjà une dépendance parfois au tabac préalable, à la nicotine. Et puis ensuite, on rajoute du cannabis sous forme de résine, d'herbe. Dans la cigarette, ça devient un pétard ou un joint. Ça dépend de nos générations, je ne sais pas. Ou encore d'autres noms. Mais effectivement, les chiffres disent qu'à peu près un consommateur sur 6 va devenir dépendant au cannabis. Ça peut paraître peu, mais en valeur absolue, quand on sait qu'il y a 1 million de consommateurs quotidiens en France de cannabis, ça peut représenter pas mal de monde.
D'aucuns pensent que le cannabis est une sorte d'antichambre finalement à d'autres drogues. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet ?
Oui, ça c'est une théorie qui a été développée dans les années 70 et qui consistait à dire, eh bien, on va prendre des héroïnomanes et on va regarder ce qu'ils ont consommé avant. Et effectivement, avant de consommer l'héroïne, ils avaient consommé du cannabis.
Est-ce que ça fait de tous les fumeurs de cannabis de potentiels héroïnomanes ?
Mais ça marche pas dans l'autre sens.
Ben voilà,
c'est-à-dire qu'ils avaient aussi consommé du tabac et de l'alcool, on oublie de dire dans ce cas-là.
Exactement.
Et en réalité, cette théorie de l'escalade ou de la transition, elle n'est pas validée scientifiquement, parce que ce qui compte, en fait, c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Et en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, on a accès plus ou moins à différentes substances. Tout le monde n'a pas croisé l'héroïne dans sa vie, ou la cocaïne, ou même le cannabis. Le cannabis, c'est beaucoup plus fréquent, c'est vrai. Donc c'est la substance la plus consommée parce que c'est la plus accessible. Mais on a des substances autres, telle que la cocaïne, qui se banalise, se normalise totalement en France comme ailleurs, et qui devient de plus en plus accessible aussi. Donc il n'y a pas de transition vers la drogue douce, vers la drogue dure, tout simplement parce qu'il n'y a pas de drogue douce.
Alors on va essayer d'être pragmatique et essayer de donner certains conseils. Quand est-ce qu'on sait qu'on est addict, dépendant, qu'on a un problème de consommation lié au cannabis ?
On est addict quand on perd la liberté de ne pas consommer. L'addiction, c'est un problème de liberté, pour le dire de manière très pragmatique. C'est-à-dire que on sait qu'il faudrait pas qu'on consomme, à ce moment-là, par exemple, de la journée, mais on a envie de consommer, et cette envie est irrépressible. Elle est irrationnelle, mais elle est irrépressible. Et donc, on va consommer malgré ça. Et donc, on perd la liberté de choisir. Et quand on commence à avoir ce type de comportement, il faut vite s'en préoccuper. Parce que l'addiction, c'est un trouble, c'est une maladie chronique. Donc ça veut dire que ça va être difficile ensuite d'arrêter, mais on peut arrêter, heureusement. Néanmoins, on va conserver une vulnérabilité, c'est-à-dire que on sera plus à risque que quelqu'un qui n'a jamais fumé de reprendre du cannabis, par exemple, parce qu'on a un problème au travail, parce qu'on vient de se séparer, parce qu'on a perdu quelqu'un dans la famille, etc.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, l'addiction, elle repose sur beaucoup de choses, et notamment le caractère psychologique, et quelque part, notre faiblesse par rapport à certaines substances tient parfois aussi de ce que l'on a vécu. C'est ce qui fait la différence, en fait. Il y a pas, les addicts ne sont jamais véritablement les mêmes, il n'y a pas de profil type. Il y en a qui arrivent à stopper leur consommation, à la diminuer, à stopper, comme certains arrivent à arrêter de fumer, et il y en a d'autres qui ont besoin d'être prises en charge. Oui. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux, justement, qui voudraient s'engager sur la voie de la modération ?
L'idée, c'est d'atteindre, c'est de rester dans la voie de la modération. Si on fait le choix de consommer...
Oui, mais si on l'a dépassé.
Si on l'a dépassé, en revanche, il y a des profils de patients qui pourront... Parce que, d'abord, ils ont cette nostalgie, enfin, ils gardent ce côté un peu lune de miel du produit qu'ils veulent retrouver. Parce que ça peut être très agréable pour eux.
Bah, c'est souvent comme plaisir. Ça, en fait. Hein, puis, drogues, l'alcool et tout ça, c'est
plaisir. Il y a une partie plaisir. Ils aimeraient retrouver la partie plaisir, en fait. Eh bien, certains essayent, et on essaye. Nous, en tant que médecins, on accompagne des patients, et c'est pas nous qui fixons l'objectif. On le discute avec les patients, et s'ils n'ont pas envie d'arrêter, on les accompagne vers une diminution, et on voit ce qui se passe. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Il y a rarement d'urgence absolue à arrêter, en fait.
Mais il n'y a pas de médicament qui est de sevrage.
Il n'y a pas de médicament pour arrêter le cannabis. Il y a des symptômes de sevrage. On dort mal, on tremble, on transpire, on est plus anxieux. Ça, c'est quand on arrête de fumer brutalement, quand on a un consommateur important quand même, hein, régulier, quotidien. Ça, si vous voulez, vous n'êtes pas bien, quoi. Et donc, vous savez que juste en refumant, ça va mieux. Donc, c'est un piège, ça, c'est le piège de la dépendance. Et puis, il y a les envies. Même si vous avez arrêté, vous pouvez, un mois après, un an après, avoir une envie qui revient, comme ça, et qui vous déstabilise pas mal, parce que vous pensiez que vous êtes débarrassé de la substance.
Vous avez déjà essayé, vous, le cannabis, Jimmy ?
Moi, je fume pas, je bois pas, je tous ces trucs.
En fait, c'est un homme parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Non, en fait, j'ai toujours peur de me dire, si je commence, peut-être que je vais apprécier, et peut-être que je vais aller vers autre chose. Donc je me dis, je préfère ne jamais franchir la ligne que de prendre le risque, je sais pas vous, Flavie.
Moi, j'ai essayé une fois, et j'ai fait un bad trip. C'est un truc, alors on va se retrouver dans un instant, on va en parler, mais j'ai très, 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 très mal vécu cette situation. Et ça m'a vaccinée direct. Alors que je vais essayer, j'étais adulte, enfin voilà. Et ça a été terrible. J'ai marché à côté de mes pompes, j'ai très très mal vécu. Et depuis,
ça vous a calmé.
Exactement, ça m'a largement calmé. On se retrouve dans un instant, parce qu'on va parler de ces fameux bad trips. Parce que ça peut être une chance, en fait. Hein. C'est extrêmement désagréable, donc ça peut être une chance. A tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Jardiland célèbre son jardin. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Il était une fois une vaillante jeune fille ayant quitté son sud natal pour étudier. Pour retrouver le bon goût de chez elle, elle croqua dans le nougat de Montélimar Pays Gourmand, reconnu saveur de l'année 2024 à 3,19€ les 200 grammes chez Aldi. Et c'était comme à la maison. Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
En ce moment chez Aldi, 15,96€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Info sur aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Bonjour, c'est Christine Haas. L'astrologie vous intéresse, vous intrigue? Vous avez des questions, mais vous hésitez encore à les poser à une astrologue? Alors, n'hésitez plus et rendez-vous sur le 3210 où je mets tout mon savoir-faire et mon expertise à votre service.
Les horoscopes de Christine Haas, c'est sur RTL, rtl.fr et au 3210.
50 centimes la minute, plus prix d'un appel.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
À ma droite, le docteur Jimmy Mohamed sous vos applaudissements. À ma gauche, Nicolas Autier, le professeur Nicolas Autier, qui est médecin psychiatre, pharmacologue à la faculté de médecine de Clermont, et donc qui est l'auteur du Cannabis pour les nuls. Voilà, et c'est chez First Edition. Alors, tiens, on parle effectivement du cannabis, on a plein de questions à vous poser. La question étant sur le bad trip.
Mais complètement.
Ce qu'on appelle un bad trip déjà, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Professeur.
En fait, ça va dépendre des substances, mais en fait, c'est une réaction imprévisible, surtout pas désirée, on va dire, très, très violente, qui parfois vaccine effectivement l'usager lorsque ça lui arrive la première fois, mais qui peut arriver, y compris chez les usagers réguliers d'ailleurs. Avec le cannabis, parmi les bad trips les plus fréquents, il y a la crise d'angoisse ou l'attaque de panique.
Ce que j'avais eu.
Qui va durer quelques minutes, mais on est extrêmement mal, extrêmement oppressé. On a l'impression qu'on va mourir. On va pas mourir, mais on a l'impression qu'on va mourir. Et puis ça passe, hein, évidemment. Et le deuxième, le plus fréquent, c'est la paranoïa. C'est quand on se retrouve paranoïaque, à regarder derrière soi, à se sentir pas bien, on a l'impression qu'on est pas tout seul. On peut avoir aussi des hallucinations avec le cannabis.
Oh, arrête.
Des hallucinations auditives, par exemple, avec plein de drogues, mais le cannabis n'y échappe pas. Effectivement, ça peut arriver dès la première consommation, mais on a aussi des consommateurs réguliers qui en consomment depuis 5, 10, 15, 20 ans et qui disent j'arrête, je ne le supporte plus, ça me rend parano. Alors que pendant 10, 15 ans, il n'avait pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Il y a comme s'il y avait une vulnérabilité qui se révélait au bout d'un certain temps.
C'est pas plus mal.
Mais, ça peut être aussi lié à l'état psychique de la personne à ce moment-là aussi. Hein. Mm-hmm. Parce que les consommations de drogue, les effets, ils sont aussi liés à l'environnement dans lequel on les consomme.
Vous parlez de paranoïa, d'hallucination. On fait souvent ce lien entre la consommation de cannabis et le risque de devenir schizophrène. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire?
Ça ne suffit pas le cannabis pour devenir schizophrène. Et non plus nécessaire pour devenir schizophrène. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut devenir avoir un trouble psychotique comme la schizophrénie, alors qu'on n'a jamais fumé de cannabis. Et en revanche, il y a effectivement chez les consommateurs de cannabis, parfois, une accélération de l'apparition de la maladie. La maladie est plus précoce. Mais parce qu'on a une vulnérabilité. Le cannabis ne rend pas schizophrène. Il va faire apparaître la maladie de façon plus précoce chez quelqu'un qui a déjà la vulnérabilité de devenir schizophrène. Et heureusement, c'est pas systématique, puisque je vous l'ai dit, il y a 1 million de consommateurs quotidiens, 5 millions de consommateurs à l'année. Donc on n'a pas autant de personnes qui souffrent de schizophrénie. Néanmoins, c'est un problème parce que ça concerne les adolescents, les jeunes adultes, et que plus la schizophrénie apparaît tôt, plus le pronostic peut être défavorable. Parce que ça va avoir un impact très fort sur l'apprentissage, ensuite la vie d'adulte, le travail, etc. Donc c'est pour ça qu'on est très très prudent et que tous les pays qui ont légalisé le cannabis, généralement, l'interdisent toujours aux enfants, j'allais dire, ou jeunes adultes de moins de 18, 21, voire 25 ans.
Oui, on peut parler rapidement des effets délétères hein, sur un cerveau qui est encore en devenir.
Mais oui, c'est ça, je dis 25 ans parce qu'on dit que jusqu'à 25 ans, le cerveau est en devenir et que donc la consommation de cannabis, comme d'autres substances, mais là on parle du cannabis, va entraîner une mauvaise maturation anormale potentiellement du cannabis et puis vos capacités de concentration, d'attention, de mémorisation vont être moins bonnes. On peut récupérer si on arrête, bien sûr. Mais elles vont être moins bonnes à un moment de la vie où on a besoin d'apprendre pour pouvoir ensuite, dans la vie sociale, avoir un travail, etc.
Ouais, et puis on se dit aussi, les jeunes, par exemple, qui fument parce que ça apaise, pour certains, ça fait mieux dormir et tout, mais ils ont des examens, ils ont des échéances, ils ont plein de choses, et en fait, il n'y a rien de pire que de fumer à ce moment-là, non? En termes de concentration, alors, de...
Il n'y a rien de pire, parfois ceux qui consomment ne le voient pas comme ça.
Bien sûr, j'entends.
Parce qu'il y a souvent une dissonance, effectivement, entre ce qu'on peut dire nous et ce que la personne qui consomme va nous dire. Certaines personnes nous disent, mais moi je suis mieux quand j'ai fumé. Je suis tellement meilleur quand je joue aux jeux vidéo quand j'ai fumé.
Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment...
Non, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Ça, c'est comme les artistes qui deviennent meilleurs après avoir pris des substances.
On a toujours l'impression qu'on va mieux écrire, on va mieux faire de la musique.
Non, mais ils ont d'abord du génie, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est pas la drogue qui leur donne du génie. Ils ont d'abord du génie. Et après, peut-être que ça décuple leur génie, mais c'est autre chose. En réalité, effectivement, il faut s'intéresser à ça parce que les adolescents, parfois, ils trouvent pas d'autres solutions. C'est une solution qui est malheureusement très facile d'accès, le cannabis.
Mais imaginons qu'on se rend compte que notre enfant, notre ado, consomme du cannabis. Avant de lui crier dessus, est-ce qu'il faut peut-être se poser la question du pourquoi? Est-ce que peut-être qu'il va... Moi, je me dis, en tant que papa, si je découvre que mon fils fume du cannabis, je vais mal le prendre, mais il faut essayer de prendre un peu de recul.
Ah bah, vous voyez, c'est la partie la plus compliquée. En tout cas, la première minute où on apprend que son enfant consomme ou a consommé du cannabis. Mais effectivement, une des premières questions à poser, c'est peut-être pourquoi tu en consommes. Ne pas arriver sur l'interdit. Ne pas mettre l'interdit en premier.
Non, mais c'est surtout, pardonnez-moi, mais on a tous été jeunes. Enfin, pardon. On a tous été tentés d'essayer son premier verre d'alcool, sa première cigarette, son premier pétard. Enfin, moi, c'est la première chose qui me viendrait à l'esprit, non?
Oui, mais c'est pas plus inquiétant.
Non, mais ça aide à...
On consomme pas pour rien, on consomme pas les substances pour rien.
Puis ça aide à relativiser peut-être un peu les choses au lieu de...
C'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi l'adolescent consomme. Ouais. Parce que est-ce qu'il y a une souffrance ou bien est-ce qu'il s'est fait choper malheureusement dans la chambre alors qu'en fait il en fume de temps en temps dans des soirées avec des copains, ce qui n'est pas la même chose. C'est interdit peut-être, mais sur un plan médical c'est pas la même chose. Et c'est pas si différent finalement que si vous attrapez votre gamin en train de boire des shoots ou des bières ou je sais pas quoi dans un bar en passant dans la rue.
Bah, ouais.
C'est légal, certes, mais notre problème c'est pas le légal.
Que dire à ceux qui pensent mieux dormir avec le cannabis? Vous l'avez dit, certains vont être stressés et dire ah tiens, je prends un joint de cannabis, je m'endors, de la même manière que certains vont consommer de l'alcool pour mieux dormir.
Mais le cannabis, ça a un effet sur le sommeil, sur le plan quantitatif, c'est-à-dire qu'on dort plus longtemps. Sur la durée, ça peut avoir cet effet-là. Et puis ça peut déclencher le sommeil, ou en tout cas faire apparaître le sommeil chez quelqu'un qui aurait du mal à le faire apparaître. Souvent les gens qui ruminent, donc les gens un peu anxieux. Malheureusement, si on consomme du cannabis tous les soirs, c'est quand même pas rare, hein, la consommation de cannabis, le joint du soir, qui peut peut-être être isolé juste le soir, comme certains vont prendre leur whisky d'ailleurs, hein, c'est pas là aussi on peut comparer, eh bien, ça va avoir un effet potentiellement négatif sur la qualité de votre sommeil. Vous allez dormir plus, mais il sera de moins bonne qualité, et donc le lendemain, en fait, votre journée, votre cerveau n'aura pas eu le repos, n'aura pas eu la récupération nécessaire. Pourquoi ? Parce que au niveau du sommeil, le cannabis, s'il est consommé régulièrement, il supprime une partie de votre sommeil. Le sommeil, c'est des cycles de sommeil qui se succèdent les uns après les autres, d'environ 2 heures, 2 heures et demie. À la fin de chaque cycle, il y a ce qu'on appelle la phase paradoxale. Et cette phase-là, elle est indispensable parce que c'est là où on récupère le plus. On dort pas vraiment beaucoup dans cette phase-là. On se réveille, on ouvre les yeux, on se rendort. Mais elle est capitale. Or, le cannabis la supprime. Et en même temps qu'il supprime ça, il supprime vos rêves et vos cauchemars. Si vous ne rêvez plus, si vous ne faites plus de cauchemars et que vous êtes consommateur de cannabis, attention, il y a un problème, votre sommeil a une mauvaise qualité.
Rapidement, ça a un impact sur la douleur?
Dans le cannabis, il y a une substance qui s'appelle le THC, on en a déjà parlé, le tétrahydrocannabinol, qui est la substance qui est utilisée dans le domaine du cannabis médical pour soulager certaines douleurs, et notamment des douleurs qu'on appelle les douleurs neuropathiques, qui sont des douleurs comparables à celles des sciatiques.
Mmh. Il y a la question de la légalisation. Flavie, vous avez fait un épisode
de Jour J, que je conseille à tous ceux qui nous écoutent et qui est disponible en replay justement sur l'application RTL, où on vous explique la question de la légalisation, la comparaison avec d'autres pays, et notamment l'exemple du Canada. Justin Trudeau qui avait décidé de légaliser le cannabis.
Mais du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On se rend compte que la répression en France, elle ne marche pas. Mais il faudrait quoi? Le légaliser, le cannabis?
C'est quoi votre point de vue?
En même temps, c'est une drogue, donc comment on fait?
Mais l'alcool aussi en est une, tu vois.
Ah, je suis entièrement d'accord. Hein.
Qu'est-ce que vous en pensez, professeur?
La drogue qui tue le plus, c'est le tabac. Et la deuxième qui tue le plus, c'est l'alcool.
Ouais.
Le cannabis tue très peu, sauf pour des complications cardiaques qui existent parfois avec le cannabis. En fait, on prend le problème que d'un côté, en fait. C'est-à-dire qu'on décide de faire de la répression et on décide de faire la guerre aux trafiquants, ce qui est normal. Et tous les pays qui ont légalisé continuent à faire la guerre aux trafiquants de drogue. Ça, c'est pas un problème. Mais on fait en même temps la guerre en France aux usagers de drogue, le cannabis étant la tête de gondole, et on leur met des amendes à 200 euros qu'ils peuvent plus ou moins payer. Mais ça, ça n'a jamais eu un impact vraiment très efficace. Donc, probablement qu'il y a un équilibre à trouver, ou une solution un peu hybride, qui consiste à certes faire de la répression sur les trafiquants, parce que là, c'est un monde, effectivement, qui répond à aucune loi et qui pose des problèmes bien au-delà de la drogue, les armes, la prostitution, le trafic d'êtres humains, etc. Mais on peut aussi peut-être faire un peu plus de santé publique. C'est-à-dire qu'on peut plus s'intéresser à pourquoi les gens consomment, plutôt que de leur dire « c'est pas bien de consommer », pourquoi vous consommez. Et ils consomment pas tous pour faire la fête, on l'a dit dans l'émission. Et donc, comment on peut faire en sorte qu'ils consomment moins souvent, plus du tout? Comment on peut faire en sorte que les plus jeunes ne commencent pas à consommer? Tous les pays qui ont légalisé n'incitent pas à la consommation. Légaliser, ça veut pas dire inciter à la consommation, ça veut dire faire de la prévention primaire, c'est-à-dire tout faire pour que les enfants ne consomment pas, en passant par la médecine scolaire, si tant est qu'elle existe un jour en France, de nouveau, et puis faire de la prévention secondaire. C'est-à-dire, si vous fumez, attention, il y a d'autres moyens de consommer. Par exemple, dans les pays où on a légalisé, ceux qui consomment, on leur conseille de vaporiser. On leur dit pas de joint,
alors voilà.
Vaporiser.
Alors, ce sera le mot de la fin, mais effectivement, il y a plusieurs façons de consommer le cannabis. Mmh. La pire étant de la mélanger à du tabac et de fumer, puisque
la combustion.
C'est la combustion. Donc, il y a d'autres façons. Il y a les gâteaux, les machins. Oui. Les trucs. Enfin, bon, voilà. Et il y a effectivement on dirait une spécialiste, mais c'est parce que j'ai fait une émission dessus. Hein, je tiens à préciser. Parce que je trouve ça hyper important de le dire.
Quoi. Mais c'est important.
Vous êtes d'accord?
Ouais, exactement. Voilà. Exactement.
Bon. On recommande votre livre vraiment, oui. Le cannabis pour les nuls, professeur Nicolas Hautier, parce qu'on a appris plein de choses avec vous, mais il y a encore plein d'explications à trouver dans votre livre que je recommande à tous.
Merci à vous, professeur.
Merci beaucoup. Merci, professeur.
Notre invitation. Changement de sujet. Ça ne fume pas le thé matcha. Hein.
Non.
C'est sans danger.
Mais c'est bon pour la santé, le thé matcha.
Voilà. En revanche, l'irrigation du côlon, on va voir ce que ça donne.
Hein. Ah, c'est pas une mince affaire.
À tout de suite.
Le docteur Jimmy Mohamed et Flavie Flamand attendent vos questions par email à l'adresse santé@rtl.fr.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers, mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Tout est bon ?
Tout est bon dans le jambon de Paris décoiné et dégraissé de chez Lidl, patron. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, il y a moins 50% sur le deuxième paquet de 6 tranches, soit 1,30€.
3,91€ les deux ! Ils nous prêtent pour des jambons ?
Ah, c'est un vrai prix tranché, patron. On est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,88€ le kilo pour un produit, 8,15€ le kilo pour deux produits. Offre valable jusqu'au dimanche 28 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Oh non, Léo, mais t'as encore inondé la salle de bain, tu peux pas faire attention.
Bah oui, mais avec ce vieux rideau de douche, on peut pas faire autrement.
Bah on va quand même pas installer une cabine de douche.
Ah bah si, pourquoi pas.
Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec la cabine de douche Square 80 par 80 cm, très tendance en coloris noir et gris à 199€. C'est ça, un prix dépôt. Brico Dépôt. Wow. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Depuis ce matin 7h en quantité limitée. Également disponible en drive sur bricodépôt.fr.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€, les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€, la boîte vend du sol, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire.
Tout à l'heure à 13h30 dans Entrez dans l'histoire, je vais vous raconter la vie d'une des figures les plus emblématiques du siècle des Lumières. C'est d'ailleurs l'un de ceux qui avait prédit la Révolution française. Il fut le père d'un des plus grands personnages du théâtre français, Figaro. Beaumarchais, l'homme aux mille vies, c'est tout à l'heure à 13h30 dans Entrez dans l'histoire sur RTL.
Laurent Deutsch sur RTL, Entrez dans l'histoire.
Et vous savez quoi ? Ce podcast est déjà disponible sur RTL.fr et sur l'application RTL.
9h15, 10h.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec le docteur Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
Le couple du samedi matin à votre disposition. On est ravis de vous retrouver. C'est toujours entre 9h15 et 10h, 32-10, santé@rtl.fr. Vous nous laissez bien votre numéro de téléphone hein, quand vous nous laissez un message sur le répondeur. Là, on va passer à l'aliment. C'est quoi ? Même le super aliment de la semaine.
Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL.
Alors, de quoi on parle ? Du thé matcha, changement d'univers.
Complètement. Oui. C'est du vert.
C'est du vert, c'est séché.
Le matcha, ça veut dire thé moulu en japonais. En fait, c'est un thé vert qu'on va trouver sous forme de poudre et qui a été utilisé notamment pour la cérémonie du thé au Japon. Il faut bien comprendre que les feuilles de thé, elles vont être broyées en une fine poudre qu'on ne va pas infuser, mais qu'on va directement mélanger avec de l'eau à 60 degrés, qu'on va fouetter et qu'on va ensuite ingurgiter.
Mais alors, justement, à l'origine, on le consommait pour quelle raison ? Parce que vous nous parlez d'un super aliment, mais ça doit bien avoir...
Vertu médicinale, dans un premier temps. Mais aussi, à l'époque, les samouraïs devaient être éveillés la nuit et ils se rendaient compte que ce thé matcha leur permettait de stimuler leur éveil. Ils dormaient moins, ils avaient plus d'énergie. Alors il faut bien comprendre que dans une tasse de café, on a environ 100 mg de caféine. Dans un bol de thé matcha, vous avez simplement 25 mg de caféine, 3 à 4 fois moins. Et pourtant, ce thé matcha a beaucoup plus d'effet que la caféine. En fait, il contient une théine qui va pas être libéré en un seul coup. Le problème du café, on l'a tous expérimenté, vous prenez un café, ça vous donne un shoot de caféine, puisqu'en fait, cette caféine, elle est biodisponible intégralement. Votre corps va l'assimiler. En revanche, la théine du thé matcha, elle va être libérée progressivement. Ce qui fait que lorsque vous prenez un bol, eh bien, vous pouvez attaquer la journée sans avoir cet effet de crash qu'on a avec le café qui vous pousse à
boire. Donc c'est mieux alors?
Ben, franchement, c'est nettement mieux. D'autant que ce thé matcha, il peut agir un peu comme calmant. On sait qu'il va contenir une molécule qui sert à la production de sérotonine et de dopamine.
Comment elle s'appelle cette molécule?
Elle s'appelle la L-théanine. C'est pas sympa.
La petite question.
Parce qu'effectivement, elle a un nom un peu compliqué. Elle sert à créer les messagers, les hormones du plaisir et du bonheur. Et c'est notamment pour ça que les moines bouddhistes en consommaient très régulièrement, puisqu'en fait, ça les apaisait. Donc le thé matcha, non seulement ça vous réveille, mais en plus, ça vous calme. Contrairement au café, qui a une tendance un peu à vous exciter. Là, j'ai pris un peu trop de café d'ailleurs.
Et les vertus, justement, sur la santé?
Dans le thé matcha, étant donné que vous avez la feuille qui a été broyée dans son intégralité, que vous allez consommer directement, eh bien, vous avez toutes les vertus du thé, avec notamment des antioxydants. Ces antioxydants, vous le savez, c'est ceux qui vont protéger notamment vos artères. Donc, j'irai pas jusqu'à vous dire que le thé matcha est un médicament, mais c'est un super aliment. Donc, vraiment, mettez-vous au thé matcha. Et je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie du thé matcha. Hein. C'est vraiment que c'est cadeau.
Flavie et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos questions par email à l'adresse santé@rtl.fr.
Un mail de Sylvie. Pourriez-vous me dire si le fait d'avoir un chat peut aggraver ma toux asthmatique, étant donné que j'ai été testée il y a quelques années allergique au chat? Je sais pas, moi j'ai l'impression que la question elle est toute répondue, comme disait l'autre sur les réseaux sociaux. Bah oui. J'ai un traitement qui associe des médicaments et des inhalateurs. Que dois-je faire? Je ne pourrais pas me séparer de mon chat, il fait partie de ma famille, je l'aime. Alors, l'allergie au chat, c'est fréquent?
Ah oui, c'est l'allergie aux animaux la plus fréquente. Ensuite, c'est le chien. Alors, on n'est pas tant allergique au chat que plutôt aux protéines qui sont présentes dans la salive, dans la peau ou dans le poil du chat.
Oui, d'accord. Et oui, du coup, c'est pas l'animal en lui-même.
Bien sûr. Exactement. Et puis, forcément, bah, comme le chat, il va lécher, se frotter, toucher plein d'éléments, eh bien, lorsqu'il y a un chat dans une pièce, vous pouvez avoir plein de symptômes. Et même lorsque le chat est parti, eh bien, vous pouvez avoir des symptômes à tel point qu'un enfant qui a un chat et qui va à l'école, comme il a plein de squames sur son vêtement, il peut rendre des enfants malades dans la classe. Parce qu'en fait, ça reste collé. Donc, c'est pas le chat en tant que tel, c'est vraiment la salive, les protéines qui sont contenues dedans et les squames de la peau.
Alors, ça fait quoi comme symptôme, l'allergie au chat? C'est comme toutes les autres allergies?
Complètement, Flavie. On éternue, on a le nez bouché, ça gratte au niveau des yeux, on peut faire un peu d'eczéma. Et là, en l'occurrence, pour Sylvie, eh bien, ça peut déclencher des crises d'asthme chez des patients qui ont un terrain prédisposé à faire de l'asthme ou des asthmatiques. Ils peuvent vraiment tousser, siffler et faire une véritable crise d'asthme.
Il y a des astuces pour limiter quand même l'impact de cette allergie, la stratégie d'évitement, en fait.
Oui, alors déjà, dans un premier temps, on peut donner quelques conseils. Il faut shampouiner le chat au minimum tous les mois, lui interdire les pièces de nuit. Vraiment, la chambre à coucher, c'est sacré et le chat ne doit pas y passer. Passer l'aspirateur plusieurs fois par semaine, aérer la pièce pour la renouveler, puis se débarrasser des tapis, des moquettes qui vont justement accrocher toutes les squames et tous les poils. Et puis après, on va donner des traitements antihistaminiques, des traitements anti-allergiques. Et puis parfois, on peut même faire de la désensibilisation aux allergènes du chat.
Ça fait mal le côlon?
Le côlon, non, normalement on ne sent pas le côlon.
Pas mal.
On a pas mal le côlon.
Non, parce que ça y est, on est arrivé à la routine de la semaine.
RTL, ça va beaucoup mieux.
Bon, la routine de la semaine, vous l'avez choisie parce qu'elle répond à la question de Rosie, qui est une auditrice.
Elle nous dit: ce matin, j'ai entendu parler dans votre émission du microbiote. Est-ce que les soins d'irrigation du côlon ne sont pas dangereux? Merci de votre réponse.
C'est quoi?
Il faut bien comprendre l'irrigation du côlon, qu'est-ce que c'est? C'est d'introduire une canule dans le rectum, reliée à une petite machine où on va vous balancer de l'eau pour...
Un karcher, quoi.
Un karcher du côlon, en gros.
C'est petit, le truc ou...
Alors, c'est une canule qui fait quand même quelques centimètres de diamètre, donc il faut instiller de l'eau tiède. Et l'idée, c'est de laver tout le côlon dans un circuit fermé, donc c'est-à-dire qu'on va rincer, aspirer pour vous débarrasser, soi-disant, de toutes les toxines et de tout ce qui sera accumulé au niveau du côlon.
On balance de l'eau et après on l'aspire.
Exactement, on
retire
l'eau.
Avec tout ce qu'il y a dedans, quoi.
Exactement, on rince et on aspire en même temps.
Ok, donc ça c'est un grand lavement, quoi.
C'est ce qu'on appelle un grand lavement, exactement.
Mais est-ce que c'est vraiment bien? Pourquoi est-ce qu'on fait ça?
Pour beaucoup, on imagine que dans le côlon il y a des toxines, il y a des déchets, parce que forcément il y a des matières. Et on pense que certaines toxines resteraient coincées à l'intérieur du côlon et qu'il faudrait nettoyer, rincer tout ça. Sauf qu'en réalité, vous allez juste irriter votre côlon. En faisant ça, vous n'allez pas vous détoxifier. Prenez un jus de pruneau, vous aurez peut-être un peu de diarrhée et vous ferez un lavement, on va dire, un peu naturel.
En fait, c'est de façon naturelle.
Exactement.
Que l'on mange des fibres, notre côlon.
Une alimentation riche en fibres vous permet d'aller régulièrement aux toilettes et donc vous allez nettoyer votre côlon.
C'est en allant aux toilettes qu'on nettoie le côlon.
Exactement. D'accord. Et c'est pas en faisant cette hydrothérapie du côlon qu'on va retrouver très souvent chez des gourous, chez des naturopathes qui n'ont pas le droit.
Sectaires.
Exactement.
Voilà, qui sont ces pratiques.
Et qui n'ont pas le droit d'effectuer cet acte qui normalement est un acte médical et qu'on peut utiliser parfois chez des patients qui ont une constipation chronique très importante ou qui souffrent d'incontinence anale. Mais dans ces cas-là, c'est sur prescription médicale et que ça coûte souvent très cher, plus d'une centaine d'euros pour avoir une canule dans les fesses avec de l'eau tiède. Franchement, un jus de pruneau à 2 euros, ça fait largement l'affaire et ce sera beaucoup plus efficace.
Et est-ce qu'il y a des risques quand même du coup, est-ce qu'on peut se faire mal?
Ben oui, parce qu'on met la canule dans le rectum, donc il y a un risque de fissure, de saignement, d'infection.
Et même à l'intérieur du corps,
et même à l'intérieur du côlon, exactement, on va avoir une perforation. Donc, ne le faites pas. Okay. Gardez votre argent, achetez des fruits et des légumes. Okay. Et si jamais vous avez un problème digestif, allez voir un gastro-entérologue largement suffisant pour prendre soin de votre microbiote.
Bon, ça tombe bien, ça n'est même pas traversé l'esprit. Mais enfin, si on a pu effectivement vous apporter une lumière à ce sujet, et ben c'est le but de cette émission qui se termine. Vous pouvez la retrouver en podcast sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires. 3210 santé@rtl.fr. Vous retrouvez Jimmy à 8h30 dans la matinale RTL, Amandine Bégo et Yves Calvi.
Et vous Flavie, lundi 20h, jour J, le magazine qui décrypte l'actualité.
Voilà, et nous samedi prochain, ça va beaucoup mieux. Pour l'instant, c'est Stop ou Encore avec Eric Jean-Jean. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse, Jimmy.
Salut Flavie.
Bye bye.
Jimmy Mohamed,
Flavie Flamand,
ça va beaucoup mieux sur RTL.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan. Si comme Ryan Gosling, vous voulez découvrir Un petit truc en plus, ça sort le 1er mai au cinéma. Je vous fais des bisous. Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL.
RTL.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Chez Ixina, à partir de 2990 euros, vous avez une cuisine sur mesure et électro inclus. Et en plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet. Ah oui, en plus, elle est garantie 10 ans. En fait, le prix Ixina, c'est vraiment bien plus qu'un prix. Ixina, oui à vos rêves. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur Ixina.fr.
Le jour où son mari Aymeric est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler. Face à l'incertitude du destin, elle va devoir s'adapter aux épreuves pour faire renaître l'espoir. Prendre la vie comme elle vient, un roman qui nous parle de la vraie vie. Cette vie remplie d'obstacles, mais surtout d'amour et de courage. Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte est disponible aux éditions Pocket.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,99€.